On va regarder le psaume ce matin du tremblement, qui est parfois appelé le psaume du tremblement de terre, et on va lire dans le psaume 46 en son entier. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia! Alléluia, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons ce matin pour qui tu es. Alléluia, que tu es grand, que tu es fort, que tu es merveilleux, que tu es rempli, Seigneur, de grâce et de miséricorde pour ton peuple. Alléluia. Et Seigneur, tu nous donnes en toi satisfaction. Tu nous donnes en toi un secours. Tu es pour nous une haute retraite. Alléluia. Et nous le reconnaissons ce matin, Seigneur, pour qui tu es. Alléluia. Bénis encore une fois, comme tu l'as fait tellement de fois pour nous, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le psaume du tremblement de terre. Le psaume met l'emphase sur deux vérités majeures à propos de Dieu. Et ça nous démontre la force de Dieu, sa force et sa présence. Sa force et sa présence. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus dans nos vies? C'est sa force et sa présence avec nous. Et cela nous amène à deux réactions de notre part. Premièrement, lui faire confiance et deuxièmement, être reconnaissant. Lui faire confiance en toutes choses, lui faire confiance dans la vie de chaque jour, dans notre vie de chaque jour, lui faire confiance et être reconnaissant. Il y a l'histoire vrai d'un homme qui assiste sa femme à accoucher son fils premier-né. Le soir avant, le docteur vient visiter la femme sur son lit d'hôpital pour lui dire qu'il va peut-être y avoir des complications et qu'il va probablement effectuer une césarienne. Le couple, qui était un couple chrétien, ont prié ensemble ce soir-là et se sont remis au Seigneur. Le lendemain, comme prévu, le docteur a procédé à une césarienne. Le mari explique ses sentiments comme ceci. C'est difficile de décrire la crainte qu'une personne ressent à des moments comme ça. J'ai lutté pour rester calme. Le médecin a réussi à faire l'incision et prendre l'enfant. Mais mon fils ne pleurait pas. C'est pas normal, je me disais. Il ne respirait pas. Les pires scénarios se passaient dans ma tête, dit. Et j'ai prié comme j'ai jamais prié auparavant. Et durant ma prière, un verset m'a venu à l'esprit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, je me suis accroché à ce verset, il dit, et ce verset est devenu mon ancre, l'ancre de ma vie. Après la manipulation de l'enfant et les tubes qui ont injecté dans son nez et dans sa gorge, il se mit à pleurer. Oh, j'ai jamais pensé que les pleurs et les cris d'un enfant seraient de la musique à mes oreilles. Jusqu'à ce jour, ce verset a demeuré l'encre de ma vie. Quelle musique! Mais c'était un temps difficile, un temps dur, mais quelle histoire! Quelle histoire! Et sûrement l'auteur de ce psaume ne l'a pas écrit venant d'un événement ordinaire, d'une vie ordinaire ou d'une situation ordinaire. Sûrement lui aussi, il souffrait. Et c'était à cette époque-là que les Assyriens qui venaient pour attaquer Jérusalem, qui venaient pour attaquer Juda, le peuple de Dieu. Et les Assyriens avaient des légions d'hommes militaires. Et c'était à cette époque-là connu comme, les Assyriens étaient connus comme les militaires les plus forts dans le monde entier. Et les plus cruels, si vous voulez. Le roi de Juda, Ézéchias, va au temple pour prier. Il va pour implorer son Dieu, comme ce papa, ce futur papa, a prié ce soir-là. Et il prie devant l'Éternel et dit, « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib, c'est son ennemi. » Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Il prie avec son cœur, il prie avec des larmes, il prie parce que c'est urgent, il prie parce qu'ils sont entourés des Assyriens. C'est l'ennemi qui est là pour le détruire. C'est ce soir-là que Dieu, je crois, a changé l'histoire de l'homme. Il envoie un ange guerrier, si vous lisez l'histoire, il envoie un ange guerrier pour détruire l'armée des Assyriens. Juste comme ça. 185 000 soldats assyriens morts, sans aucun combat de la part de Juda. Ils n'ont même pas levé le petit doigt. Ils n'ont rien fait, c'est tout Dieu qui a fait, même aujourd'hui. Les historiens ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas expliquer pourquoi les Assyriens ont détruit à cette époque-là tous les pays, en descendant tous les pays autour qui étaient là, mais pas le roi Ézéchias, pas le peuple, la nation de Juda, ni Jérusalem, et ils ne savent pas comment expliquer ce phénomène et qu'est-ce qui a arrivé à ce moment-là. Ils ne savent pas pourquoi, mais nous autres, on sait pourquoi. Nous autres, on sait pourquoi que cela a arrivé. Et si Dieu est capable de sauver Ézéchias et Jérusalem de la complète destruction, je me dis ce matin, il peut assurément être un refuge et un appui pour vous et moi. Il peut être notre refuge. Il peut être pour nous un appui. N'importe votre circonstance, n'importe qu'est-ce que, qui se passe dans votre vie, je pense à Maryse présentement. Et qu'est-ce qu'elle passe? Prions pour elle, la supporter dans la prière, son mari Roger. On comprend pas qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui va arriver dans nos vies, dans sa vie. Mais nous savons une chose, Dieu peut être pour elle son appui, son secours, son refuge. Et elle peut en lui trouver finalement sa paix et même sa joie dans celui qui veut nous appuyer. Alors, dans ce psaume, Dieu est plus que trois choses, mais je veux vous partager trois choses que Dieu est dans ce psaume, qu'on voit, premièrement, qu'il est un refuge, effectivement. Deuxièmement, qu'il est pour nous une rivière. Et troisièmement, qu'il est pour nous un roi qui règne ou qui veut régner en nous. Premièrement, un refuge. Dieu est pour nous un refuge. Une place d'où ce qu'on peut se réfugier. Une place d'où ce qu'on peut être en sûreté. Une place d'où ce qu'on peut même se cacher et avoir le refuge de Dieu. Aujourd'hui, on nous dit que The White House, la Maison Blanche aux États-Unis, ils sont en train de bâtir un nouveau bunker souterrain qui est là en dessous de la Maison Blanche contre les bombes nucléaires. Ils en avaient déjà un, mais ils veulent fortifier, ils veulent maintenant bâtir un nouveau bunker pour les bombes, se protéger contre les bombes nucléaires. Comme vous savez, il y en a de plus en plus. Moscou fait la même chose aussi. Et je pensais aux Ukrainiens, les gens de l'Ukraine qui se cachent. Il y en a qui se cachent dans des bunkers, mais il y en a qui se cachent même dans le métro, dans des places souterraines, de ce qui peut avoir un certain refuge de ces bombes-là qui tombent constamment sur l'Ukraine. Et nous savons qu'il n'y existe aucune place qui est complètement sécure, entièrement sécure, mais pour le peuple de Dieu, il y a toujours Dieu. Il y a toujours lui. Il est pour nous un refuge. Et le mot refuge est partout dans les psaumes. Lorsque vous commencez à réaliser, faire une étude sur le mot refuge, c'est partout dans les psaumes, mais le Seigneur veut nous le décrire de plusieurs façons. Lorsqu'on parle qu'il est un refuge, Dieu veut nous dévoiler quelle sorte de refuge qu'il est pour nous. Alors, j'ai marqué rapidement quelques versets. Par exemple, le psaume 18, verset 3, dit « Mon Dieu, mon rocher, il est un rocher, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ou un refuge, en anglais, refuge, un abri. David réfère souvent à Dieu comme son rocher. Il est son rocher. Il se cachait, comme vous savez, de ses ennemis, même de son propre fils, dans des grottes parmi les rochers, comme aujourd'hui qu'on vient de mentionner les bunkers qui nous protègent des bombes. Le Seigneur est mon rocher. Il est mon refuge. Et en lui, nous pouvons avoir cette protection que nous avons. Le psaume 18, verset 31, également dit, « Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Encore une fois, c'est l'idée de protection. Dieu est comme un bouclier pour ceux qui prennent un refuge en lui. Exemple, les soldats romains étaient très bien équipés pour se protéger contre les flèches lorsqu'ils avançaient ensemble. Les policiers d'aujourd'hui, anti-émeutes, aussi sont très bien protégés. Et alors, protégés tout autour. Et c'est qu'est-ce que Dieu fait? Il est un bouclier pour vous et moi. Le psaume 61, verset 4, « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » C'est bon d'être une tour. Il est pour nous une tour de force pour nous. Il est fort pour nous. Et c'est, à cette époque-là, il y avait beaucoup de tours parce que lorsque l'ennemi attaquait, il y avait l'avantage d'être au-dessus de l'ennemi et les flèches étaient plus facilement visées vers l'ennemi. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Ils avaient des tours à cette époque-là, beaucoup de tours pour avoir cet avantage. Le proverbe 18 nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Alors Dieu veut nous faire comprendre par ces descriptions du mot « refuge » qu'il est pour nous vraiment un rocher, un bouclier. Excusez, qu'il est pour nous une tour forte. Le psaume 31, verset 21 nous dit, « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. » Ce n'est pas juste une protection physique que Dieu parle, c'est plutôt une protection de ton âme, protection de ton esprit. Une protection de ta personne, même contre les langues, ceux qui veulent te détruire, même contre la langue de l'ennemi qui est le père des menteurs, même contre ceux qui voudraient vous abaisser ou vous décourager dans votre vie. Dieu est là pour vous et il vous protège dans sa tente contre les langues qui nous attaque. C'est une sorte d'abri. Le psaume 57, verset 2. « Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Avez-vous déjà vu des poussins, comme on voit sur l'écran, se cacher sous les ailes de la mère poule? On dit « Mais c'est cute, c'est tellement merveilleux. » Mais c'est qu'est-ce que la mère fait? Parce que c'est qu'est-ce qu'elle a été créée pour faire. Et Dieu est là pour nous comme ça. Il est pour nous une mère poule pour nous protéger. Il est vraiment, réellement, entièrement un refuge pour vous et moi. Et le psaume 59, verset 17-18, des fois on le chante. « Et moi, je chanterai, et moi, je chanterai ta force. » Connaissez-vous cela? « Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » « Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. » Ma forteresse en anglais, « fortress », ma forteresse, il est notre forteresse, mon refuge, ma haute retraite. Alors, c'est de beaucoup de façons que nous voyons ici que le Seigneur est notre refuge. Et je veux vous dire ce matin, si vous avez besoin d'un refuge, si vous avez besoin d'entrer dans la caverne, le rocher du Christ, il est là pour vous et pour vous consoler. Deuxièmement, il est notre rivière. Au milieu du psaume, verset 5 et verset 6, ça nous dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Il est un fleuve. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, la beauté. Vous savez, la beauté de plusieurs cités, de plusieurs villes se trouve dans leur rivière. Souvent, on voit ça. Par exemple, à Londres, c'est la, qu'on appelle Thames, T-H-A-M-E-S. C'est une rivière fameuse à Londres, Thames. À Paris, c'est la Seine. En Vienne, c'est la Danube. En Égypte, c'est le Nil, qu'on lit souvent dans l'Ancien Testament. À Washington, c'est le Potomac, la rivière Potomac. À Montréal, c'est le fleuve Saint-Laurent. Au Nouveau-Brunswick, c'est la rivière Saint-John, Saint-Jean. Amen. Et on peut s'identifier avec la rivière. Mais il y a une cité, qui n'a aucune rivière, aucun lac, et est aussi sec que la poussière. Quelle ville que c'est ça? Savez-vous? Quelle ville a aucune rivière et c'est sec comme la poussière? Jérusalem! Jérusalem! Et le psaume 46, voyez-vous, parle qu'il est un fleuve. Si vous lisez, et ça ne parle pas souvent, on va parler de le fleuve de Dieu parce que l'Apocalypse parle du fleuve de Dieu qui coule, du cœur de Dieu qui coule de la Nouvelle Jérusalem. Et ça, c'est vrai, mais ici, ça parle pas vraiment de la Nouvelle Jérusalem, ça parle de l'Ancienne Jérusalem. Ça parle de la Jérusalem d'aujourd'hui et qu'il n'y a pas de fleuve qui est là. On trouve pas de fleuve là. La seule source d'eau pour Jérusalem venait de l'extérieur de la ville, à l'extérieur de Jérusalem, d'une source appelée Gihon, G-I-H-O-N, où ils ont bâti le réservoir de Siloé. Et on a lu concernant le réservoir de Siloé, lorsqu'il y a eu des miracles, des gens qui ont été guéris. Le réservoir de Siloé. Mais vous savez qu'à cette époque-là, Ézéchias a bâti un tunnel, et vous voyez de ce que c'est bleu, là, c'est le tunnel qui a été bâti et a couvert, ils ont couvert le réservoir de Siloé pour le cacher contre ses ennemis qui venaient, les Assyriens. Ils ont caché le réservoir, mais Ézéchias a bâti un tunnel, et ce tunnel est considéré comme les plus grands travaux de technologie, de l'ingénierie à cette époque-là. Et avec accès à l'eau qui maintenant entrait de l'extérieur de Jérusalem, et qui rentrait dans Jérusalem. Vous le voyez ici là-bas, d'où ce qui était le réservoir, et il a bâti un tunnel souterrain et qui a entré dans Jérusalem. Alors, c'était avec accès maintenant à de l'eau. Il pouvait maintenant endurer un siège, si vous voulez, un siège contre la ville. L'ennemi qui entourait la ville, il pouvait maintenant endurer parce qu'il y avait l'eau pour vivre. Et vous pouvez visiter ce tunnel même aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem. Mais pensez-y, sur la surface, la poussière. Sur la surface, pas d'eau. Sur la surface, pas de rivière. Pas de courant d'eau qui est là, pas de rafraîchissement pour le peuple de Dieu en dehors de la ville, l'armée qui est là pour les détruire. Mais profond, 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 en dessous des rues de Jérusalem, profond en dessous de la ville était une rivière cachés. Et c'est qu'est-ce que ça nous parle ici de cette merveilleuse rivière? Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, c'est-à-dire Jérusalem, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, où Dieu a mis sa main. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt. Voyez-vous, dès l'aube du matin, la nouvelle Jérusalem n'a pas besoin d'être secourue. Mais l'ancienne, la Jérusalem présente, a besoin d'être secourue. Et ça nous parle de ce tunnel que Zéchias a bâti. C'est une rivière souterraine. Pensez-y, sur la surface, il n'y a rien. Mais il y a cette rivière profonde, une rivière cachée. Cela était l'assurance de leur victoire, qu'ils pouvaient maintenant attendre, qu'ils pouvaient combattre s'il faut l'ennemi. Il y a une leçon pour vous et moi aujourd'hui dans cela, une leçon spirituelle, une leçon profonde pour nos vies. Lorsque le psalmiste se dit « il est un fleuve », un fleuve, il y a un fleuve pour vous et moi, c'est l'assurance de notre victoire aussi dans notre vie. Voyez-vous, en dessous de la vie que nous vivons présentement, en dessous de nos activités quotidiennes, en dessous de ce qui se passe dans votre vie, en dessous du rez-de-chaussée de vos vies, il y a un fleuve, alléluia, il y a des courants d'eau pour vous, il y a un rafraîchissement pour vous que l'ennemi ne connaît pas, alléluia, c'est la rivière de Dieu. Et même lorsque nous sommes environnés de l'ennemi, Dieu est là. Alléluia. Même si le pire des pires peut vous arriver, je veux vous dire qu'il y a une rivière souterraine pour vous qui va vous satisfaire, qui va vous rafraîchir, que vous pouvez aller boire et que vous trouverez en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Et Dieu nous révèle cela. Comment peut-on recevoir de cette merveilleuse rivière? Excusez-moi, j'ai soif. Comment peut-on recevoir de cette rivière? Premièrement, réalisons que Jésus seul peut satisfaire nos besoins. Je sais que c'est facile, je sais que c'est un point facile, mais réalisons que c'est Jésus seul qui peut rencontrer nos besoins les plus profonds, les plus impossibles, les plus difficiles. Jésus seul. Tellement de fois on recherche notre aide, on recherche notre satisfaction, on recherche notre aide de quelqu'un d'autre. Et je pense en tant qu'Église, nous sommes des frères et sœurs, on doit se supporter les uns les autres, bien sûr. On doit s'encourager les autres, bien sûr. Mais lorsqu'il y a de la poussière dans votre vie, c'est sec et vous avez soif, ce n'est pas les autres qui vont vous rafraîchir, c'est Christ. Vous devez aller à lui, c'est lui qui va satisfaire. Il est une rivière, un fleuve pour vous et moi. Et c'est lui seul qui peut le faire. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. » C'est là encore. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, la réponse qu'on a, on a besoin tellement. Jonathan Edwards, un grand prédicateur, homme de Dieu, a dit ceci, « Un homme assoiffé ne diminue pas une rivière en satisfaisant sa soif. Christ est comme un fleuve qui coule continuellement. Un homme peut être approvisionné toute sa vie, de l'eau vive qui coule à flot. Juste parce qu'on boit, ça ne veut pas dire que la rivière va diminuer, n'est-ce pas? Il est un fleuve. Et Dieu est là pour nous. Alors, Jésus seul peut rencontrer notre besoin. Deuxièmement, nous pouvons lui demander de nous remplir chaque jour. On a besoin de lui demander de nous remplir chaque jour. On a besoin de lui demander de nous remplir selon chaque besoin, chaque situation, chaque circonstance, chaque chose, chaque attaque, chaque impossibilité, chaque chose qui vient dans notre vie, on a besoin de venir et lui demander. Jésus a dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Qu'il vienne à moi et qu'il boive. « Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive. » Encore une fois, on le voit ici. « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jésus a dit, « Il y a de l'eau pour toi, mon chum. » Il y a de l'eau pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a de l'eau pour toi, mon enfant, Jésus dit. Et celui qui a soif, qu'il vienne. Et il sera satisfait. Alléluia. Êtes-vous content ce matin que vous pouvez être satisfait en lui? Hein? Êtes-vous content ce matin que vous avez la réponse? Vous avez la solution? Elle est trouvée en lui. Celui qui est une rivière pour vous, prête à vous satisfaire. Alléluia. Troisièmement, sa parole est une rivière souterraine. Une rivière souterraine. Dieu a dit à propos de ceux qui méditent sa parole, il dit, il est comme un arbre planté près d'un, encore une fois, courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est comme un arbre. Nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Alors, on a besoin de se planter, comme je disais aux enfants ce matin, de se rapprocher de Dieu, d'être proche de lui, d'être très, très proche de lui. Parce que lorsque le diable va frapper, il frappe dur. Mais on a besoin d'être prêt, proche de lui, afin de boire des courants d'eau. Et finalement, Dieu, quatrièmement, bénit ceux qui lui font confiance. Dieu bénit ceux qui lui font confiance. Béni soit l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, encore une fois. Près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant qui coule. Le courant qui coule. C'est ça qui a donné la vie à Jérusalem. C'est ça qui a sauvé Jérusalem. Et c'est ça qui va nous sauver aussi. C'est le courant d'eau qui vient du cœur de Dieu. Alors, il est un refuge. Il est une rivière pour vous et moi ce matin. Et dernière chose, il règne. C'est un roi qui règne et qui veut régner. C'est la conclusion ici, les deux derniers versets du psaume 46 qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Stop! Arrête! Arrête de t'inquiéter! Arrête de penser à ça! « Concentre-toi sur moi. » C'est ça que Dieu dit. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Des fois, on veut le faire nous autres même. Hein? C'est notre nature humaine de régler nos problèmes. Mais Dieu dit, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Hein? » Pas moi, hein? On n'est pas capable. Mais arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine. Sur les nations, je domine sur la terre. Autrement dit, il est ici pour nous. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre terre. Ce n'est pas juste qu'il est une autre terre, mais il est une autre terre pour nous. Il est là pour nous. Il est notre haute retraite. N'importe votre situation, n'oubliez pas qu'il est un refuge, un fleuve. Et il règne. Même si les flots écument, comme le psaume dit, même si les flots tremblent, font trembler même les montagnes, il est un fleuve. Il est un fleuve et il règne. Amen. En terminant, le 6 février 2023, je parle juste mois passé. 6 février, il y eut, comme vous savez, le tremblement de terre en Syrie et Turquie. On estime que 14 millions de personnes, soit 16 % de la population, ont été touchées. Les Nations unies ont estimé qu'environ 1,5 million de personnes se sont retrouvées sans abri, sans refuge. Le 10 mars, plus de 55 000 décès avaient été confirmés. Wow! Avez-vous un refuge? Un autre exemple, à Londres, si on recule très loin, en 1750, il y eut aussi dans cette cité un tremblement de terre qui a ébranlé la population et les a remplis de terreur. Les gens sortaient de leur maison ou de leur place, tout ce qu'ils travaillaient, couraient dans les rues parce qu'ils étaient remplis de terreur, ne voulaient pas se faire enterrer par le tremblement de terre. À ce moment-là, lorsque le tremblement de terre est venu, un des grands évangélistes, il y avait John Wesley, il y avait aussi son frère Charles Wesley, qui était celui qui a écrit beaucoup de cantiques, beaucoup de hymnes. Et l'évangéliste Charles Wesley prêchait à ce moment-là, lorsque le tremblement de terre est venu. Wesley a arrêté sa prêche, il a commencé à lire le psaume quoi? 46. Il a commencé à lire le psaume 46 pour calmer les gens. Wesley a plus tard publié une collection de cantiques qu'on appelle les hymnes du tremblement de terre. Et la parole seule a calmé les cœurs des gens à ce moment-là. Beaucoup de choses peuvent nous ébranler. Aujourd'hui, cette planète n'est pas un endroit sûr, n'est-ce pas? Hein? L'économie n'est pas sûre. Il n'y a rien de sûr. Et je vais vous dire, aujourd'hui, il y en a des tremblements de terre. Hein? Je veux dire, il y a des gros tremblements de terre physiques, oui, en Turquie, en Syrie, oui, mais il y a aussi des gros tremblements de terre monétairement. Économiquement, de toute façon, ça tremble aujourd'hui. Amen. Je peux-tu demander à l'équipe de venir, s'il vous plaît? Mais vous savez que Dieu est immuable. J'aime ça, ce mot-là. Dieu est immuable. Jésus est notre refuge. Jésus est notre rivière. Jésus est celui qui règne. Et n'importe les épreuves, n'importe vos épreuves, n'importe les frustrations, n'importe l'inconnu, n'importe les urgences dans nos vies, même les désastres dans nos vies, quand la terre est bouleversée, le psaume nous dit, quand les montagnes chancellent, dit le psaume, quand les flots de la mer mugissent, écument, arrêtez et sachez que je suis Dieu. L'Éternel est pour nous une haute retraite. Alléluia. Il est un fleuve. Amen. Je peux-tu vous demander de vous lever avec moi? Amen. Ce matin, l'Éternel est pour nous une haute retraite. On peut-tu le dire ensemble? L'Éternel est pour nous une haute retraite. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on chante ce chœur qui nous dit, « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. »